France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Ocean Vuong. J'ai lu votre livre L'Empereur de la Joie et j'ai énormément aimé autant la plume que l'histoire. Ce qui m'a le plus frappé dans ma lecture, c'est la lenteur et la stagnation qui existent à l'échelle de la ville, mais qui s'insinuent vraiment jusqu'au personnage, et cette lenteur qui est vraiment au cœur de l'histoire. Et finalement, c'est ce que ce livre fait, il s'attarde et il essaie aussi de redéfinir ce pas grand-chose, ce qui paraît pas assez important pour être raconté.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La lumière aux quatre saisons, des diamants sous la peau et des humains qui n'ont qu'une seule vie aujourd'hui dans votre Book Club. Une seule et unique vie pour l'existence, éventuellement un bonbon au caramel ou quelques cachets codéinés dans la poche. Le dernier roman d'Ocean Vuong commence par un jeune homme persuadé que tout est fini. Il veut sauter d'un pont, il en est empêché et recueilli par une femme. Autour d'elle se crée peu à peu une petite communauté prenant soin les uns des autres et notamment des cicatrices que les guerres ou l'exil ont laissées. Questionnant, réinventant, sublimant les relations filiales et amicales, cependant qu'ils reprennent ou perdent des forces dans ce drôle de paysage, le roman peint aussi l'Amérique comme une grande et très vieille porte qui, une fois franchie, demande à ce que tout le monde paye pour rester. Ocean Vuong est de passage en France à l'occasion de la parution de son nouveau roman. Il est notre invité aujourd'hui. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Ocean Vuong.
Bonjour.
L'Empereur de la Joie, c'est le titre en français de votre dernier roman, paru aux éditions Gallimard. Il est traduit par Hélène Cohen. Les éditions Gallimard publient aussi deux de vos recueils en poche, Le temps est une mère et Ciel de nuit blessé par balle, cette fois traduit par Marguerite Capelle. On est vraiment ravis de vous recevoir à ce micro du Book Club. Soyez le bienvenu. C'est aussi Marguerite Capelle qui interprète en direct vos propos vers le français. Salut Marguerite, ravie de vous retrouver. Dans ce roman, la lecture est présente. Ocean Vuong, il y a l'apparition d'une bibliothèque, il y a la mention d'un grand roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, mais pas que. Il y a quelque chose d'un rapport au livre qui existe. Or, ici, au Book Club, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités en leur demandant de nous parler de leur rapport au livre, justement. Alors, vous diriez que ça commence comment, pour vous, Ocean Vuong, ce rapport à la lecture ?
Eh bien, j'ai été élevée par des femmes analphabètes à Hartford, en Connecticut. Je dis toujours que je suis le premier de ma famille à savoir lire et écrire, mais que pour autant, je ne suis pas le premier poète. J'ai toujours été entourée d'histoires. Avec le recul, mon premier apprentissage a été auprès de ma mère et de ma grand-mère que j'écoutais autour de la table de la cuisine. C'était deux femmes qui avaient très peu de pouvoir dans l'Amérique où elles vivaient, qui n'avaient pas accès à la langue, qui élevaient des fils. Et en même temps, elles étaient profondément imprégnées de l'importance d'utiliser des mots pour leurs fils et de la dignité que ça conférait. Donc pour moi, c'était vraiment des moments d'une intense puissance qui donnaient du pouvoir. Quand je suis arrivée à l'école, comme tous les élèves, j'ignorais la valeur des mots, en tout cas, comme tous les élèves autour de moi. Moi, j'ai grandi dans une famille de milieu modeste. On était destiné à travailler dans l'usine d'armes ou au salon de manucure ou à aller rejoindre l'armée. J'étais au lycée pendant la guerre en Afghanistan et en Irak. Et puis, j'étais aussi branchée punk. J'écoutais beaucoup de groupes punk et c'est là que j'ai découvert Rimbaud. Et mes amis s'inspiraient de Jim Morrison, de Patti Smith, de David Bowie. Et un jour, je suis tombée sur Le bateau ivre, une photocopie qui traînait sur une table. Et c'était des quatrains rimés. Et j'ai cru que c'était les paroles que le groupe avait écrites. Alors j'ai demandé, tiens, c'est qui Arthur ? C'est dans quel groupe qu'il joue ? Cette chanson est géniale. Et il m'a répondu, mais non, il est mort depuis 150 ans, Arthur Rimbaud. Ce texte a été écrit il y a 150 ans par quelqu'un qui a 17 ans. Moi, j'avais 19 ans. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque de mon université Et le système de classement était par continent. Donc je suis allée trouver le texte de Rimbaud et je me suis retrouvée au rayon de la littérature francophone. Et à chaque nouveau pas, je suis passée de Rimbaud à Duras, Glissant, Césaire, Barthes. Et puis quand on continue un petit peu plus loin, on arrive sur Gabriel Garcia Lorca.
Pablo Neruda. Benjamin. So it was this kind of European.
Donc il y avait quelque chose de très européen.
Strange avant-garde work that I was encountering.
Toute cette œuvre d'avant-garde surréaliste européenne que je découvrais en même temps.
Sort of serendipitous error.
Et je suis très reconnaissant d'avoir découvert ça au hasard avec cette forme de sérendipité parce que quand j'ai commencé à étudier de façon sérieuse en tant qu'étudiant le canon de la littérature américaine, j'ai découvert Robert Frost, Robert Lowe, et c'était assez conservateur finalement. En termes de forme, ce n'était pas aussi ouvert, ce n'était pas aussi radical et curieux que les écrivains symbolistes français et les philosophes idéalistes allemands que j'avais trouvés par hasard.
Il reste vraiment des traces, j'ai l'impression, de cette lecture d'Arthur Rimbaud, ou alors c'est parce que je le savais en vous lisant Ocean View que je les ai vues, mais on y reviendra tout à l'heure sur ce que vous prêtez comme attention littéraire à la lumière, à la splendeur, pour reprendre vos mots, à la matière du réel qui parfois s'éclate comme ça en scintillement. En effet, il y a une forme de lyrisme qui se rapproche de ce champ poétique-là. Mais il y a un autre livre qui est beaucoup cité dans votre dernier roman, c'est Les Frères Karamazov de Dostoïevski. On mentionnait ici une récente traduction de Sophie Benesch, mais elle est aussi traduite en français par André Markovitch. Et la figure d'Alyosha, l'un des frères, et son rapport à la bonté, mais aussi à la foi. Pourquoi est-ce que cette présence-là des Karamazov traîne comme ça dans votre livre L'Empereur de la Joie?
I think both in Rimbaud and
Je crois que autant chez Rimbaud que chez Dostoïevski, qui étaient d'ailleurs contemporains, qui écrivaient à la fin du 19e siècle tous les deux, chez tous les deux, il y a ce grand paradoxe de la foi et en même temps de la souffrance humaine. Et je crois que tous les deux étaient inquiets, avaient peur d'écrire la réalité de l'expérience humaine en Amérique, écrire avec autant de sincérité sur la souffrance humaine, c'est quelque chose qui peut être considéré comme gênant. On préfère que les morts soient honnêtes, que les morts soient sincères. On préfère que ça vienne d'un Dostoïevski qui vient d'une autre nation, qui vient d'un autre pays, qui est mort depuis longtemps. On aime aussi trouver cette souffrance humaine dans la Bible. C'est le livre qui se vend le mieux encore année après année. Mais quand cette sincérité-là et ces blessures sont étalées dans la pièce avec nous, c'est beaucoup plus gênant. Et donc cette idée de l'authenticité, de la sincérité, signifie que peut-être on vous a dupé, qu'on vous a poussé à croire à quelque chose. Le cynisme est une forme d'intelligence performative. On n'a pas envie d'être le naïf. C'est ça le pire aux États-Unis. Être naïf, c'est avoir gobé la publicité. On est une culture qui est vraiment gouvernée par la publicité. Donc croire trop, c'est quelque part s'être fait avoir. Donc quand je regarde Rimbaud et Dostoïevski, ce sont des auteurs qui, au contraire, justement, n'avaient pas peur de poser ces questions majeures sans honte. Et je crois que c'est parce qu'ils écrivaient à des époques où leur propre pays était en train de s'effondrer. Dostoïevski questionne ce qu'est l'âme russe. Rimbaud demande ce que c'est qu'être français à la fin de l'Empire de Napoléon III et pendant la Commune de Paris. Et qu'est-ce que la langue ? Est-ce que cette langue peut nous contenir ? Ce sont des questions existentielles. Et j'ai été surpris quand les étudiants américains posent ce genre de questions. Ça fait presque ricaner. Comment osez-vous poser des questions aussi vastes ? Vous prenez pour qui ? Vous n'êtes pas Twain ou Melville, vous ne pouvez pas vous permettre d'aborder ces sujets. Donc nous avons cette aspiration à la sincérité, mais nous ne savons pas du tout comment la gérer quand elle est vivante en face de nous. Et il a fallu que je me tourne vers ces auteurs pour m'autoriser à être aussi sincère, à l'être profondément. Parce que j'ai grandi dans une période où mon pays était vraiment en difficulté. Ce que ça signifie, c'est que le problème, c'est que quand mon pays va mal, d'autres pays vont mal. Et c'est exactement ce qui se passe là maintenant.
Quelle place vous réservez aujourd'hui à la lecture dans votre vie, Ocean Vuong?
Oh, I lived in New York City for 11 years.
J'ai vécu 11 ans à New York. Et pour le meilleur ou pour le pire, je suis devenu passé maître dans l'art de lire en marchant. Donc je lis à chaque fois que je peux. Je ne suis pas très douée dans les interactions sociales. Quand je vais retrouver un ami pour prendre un café, je prends 4 livres, juste au cas où. Au cas où ils aient 20 minutes de retard. Pour avoir quelque chose à faire qui ne m'impose pas de parler à d'autres êtres humains. Donc encore une fois, c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, je crois que j'en ai tiré avantage dans ma vie. J'aime le penser. Mais je passe mon temps à lire, c'est mon plus grand plaisir. C'est peut-être un petit peu effrayant de reconnaître ça, mais je crois que je vis davantage quand je lis que quand je suis vivant. C'est peut-être quelque chose que je devrais dire à mon psy.
C'est marrant parce que quand vous prononcez cette phrase, Ocean Vuong, j'ai en tête une scène de votre roman qui est une scène plutôt finale où il y a une dissection et où le personnage principal, Hai, s'étonne de tout l'espace qu'il y a dans un cadavre. Et peut-être en tire des conclusions sur le fait qu'on est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense, qu'on est même beaucoup, que l'humanité, c'est très large, quoi. Ça peut être vraiment très, 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 très vaste. C'est assez peu contenu, finalement, dans un petit corps à disséquer. Est-ce qu'il y a de ça dans votre rapport à la lecture? C'est que finalement, c'est se brancher sur cette très, très grande étendue que serait l'existence humaine.
Oh, absolutely. I think
oui, in that absolument. Au moment où Hai regarde le ciel et justement fait croire à sa mère qu'il est en train de disséquer un corps en école de médecine, il y a cette métonymie entre le corps et le ciel. Et dans la tradition poétique, on a tendance à regarder les étoiles pour essayer de mieux se comprendre. Et donc c'est un moment aussi vraiment, c'est une métaphore des questions que l'on pose et des réponses que l'on recherche dans le ciel et dans l'espace. Mais le corps est notre archive la plus ancienne. Les Grecs, autrefois, mémorisaient l'Iliade, l'Odyssée, en intégralité. Les réfugiés, la première chose qu'ils emportent avec eux, et sans doute la dernière qu'il leur reste, c'est souvent des poèmes, parce que les poèmes sont transportables, qu'on peut les porter avec soi. Et c'est pour ça que je pense que la bibliothèque la plus ancienne et la plus durable, c'est le corps humain. Et dans le meilleur des cas, quand ils sont vraiment bons, les livres, même s'ils sont circonscrits par une couverture, ils sont poreux. Les idées doivent pouvoir infuser au-delà de cette couverture. C'est ce que je ressens en tant que lecteur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément d'accrocher le lecteur. Je ne sais pas comment ça marche ici, mais aux États-Unis, on parle vraiment de mettre la main, de posséder le lecteur, de l'accrocher, l'attraper, l'entraîner dans le livre. C'est presque comme une forme de traque. C'est une métaphore de la chasse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de rester, de m'attarder, comment est-ce que je hante un lecteur? De la manière dont mes auteurs préférés me hantent, Baldwin, Morrison, Julian Barnes, Melville, ce sont des auteurs qui m'ont presque laissé des traces pendant parfois plus de 20 ans. Je me souviens d'avoir lu Robert Browning pour la première fois au lycée et je ne me souviens pas d'une seule phrase du livre, mais les images, la vie, l'imaginaire, le poème, m'a marqué très profondément, à tel point que c'est quelque chose dont je ne peux pas me défaire, même si je voulais. Et donc savoir comment rester auprès d'un lecteur, c'est quelque chose pour moi de beaucoup plus difficile, mais de beaucoup plus intéressant que de simplement l'accrocher.
Ce qui finalement fait retour à la première façon dont vous avez répondu à ma question quand je vous ai demandé votre rapport à la lecture. Ocean Vuong, vous avez mentionné votre mère et votre grand-mère autour d'une table en train de bien choisir les mots pour s'adresser à leur enfant, car elles étaient persuadées que ça jouait ou ça leur conférerait leur dignité. Alors pour revenir à cette bibliothèque première, quels étaient ces mots bien choisis qui se seraient peut-être inscrits dans votre corps, là aussi à jamais, Ocean Vuong? Quel genre de mots? C'était des mots quotidiens ou c'était des poèmes.
They told testimonies of their life.
C'était des témoignages de leur vie qu'elles me racontaient comme une manière de nous montrer à nous les enfants. Au total, c'était six femmes qui élevaient huit garçons. En soi, c'est déjà le point de départ d'un roman russe. Hein. C'est extrêmement dramatique comme contexte, une tension dramatique. Dans un pays patriarcal, ces six femmes qui venaient d'un pays patriarcal elles-mêmes et qui n'avaient pas accès au langage et qui devaient retrouver leur dignité par justement le récit de cette mythologie. On peut parler de fiction orale pour moi comme une sorte de sous-genre littéraire, mais pour moi, ces femmes qui n'avaient jamais lu, n'avaient jamais écrit, ont été les premières à investir l'autofiction comme une façon de se donner de la valeur et de montrer à leur fils qui apprenait une langue qui leur était incompréhensible, l'anglais, et qui donc avait un pouvoir supérieur au leur parce que ses fils avaient accès à la langue. C'était une manière pour elles de revendiquer le pouvoir et de le repositionner. Et à chaque fois qu'elles nous racontaient leurs histoires, les histoires changeaient. Je me rendais compte qu'elles étaient des autrices. Sauf qu'au lieu de publier des livres, d'avoir un contrat, une photo justement d'écrivaine, elles nous racontaient des histoires pour justement obtenir se tenir à ce respect qu'elles méritaient dans ce foyer matriarcal. Et c'est pour ça que les enjeux étaient bien plus importants que pour moi, et c'est pour ça justement que leur talent était si sophistiqué et qu'elles renouvelaient en permanence leur façon de faire.
On va parler de votre nouveau livre juste après le titre éponyme du nouvel album de James Blake qui vient de sortir et dont la critique salue très largement la grâce. Trying Times, c'est le titre de ce disque et de cette chanson, c'est pas facile à traduire. Peut-être ce sera des temps où on essaie de faire ce qu'on peut, Marguerite Capelle.
Oui, des temps qui nous mettent à l'épreuve.
Ouais, des temps qui nous mettent à l'épreuve. En tout cas, ici et dans d'autres chansons, le chanteur loue la force vitale de l'amour et du lien.
I'm shredded by the time I'm home, like polystyrene foam, and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know. I'm an eyesore, signed for so right. You're the life force, you're the life force I would die for. I would die.
Le Book Club, Marie Richeux.
Certaines phrases, certains mots, certaines fictions agissent comme des énoncés magiques pour relier les êtres entre eux aujourd'hui dans votre Book Club. Prenons-en deux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? cette formule répétée à l'envi au comptoir d'un fast-food américain dans votre dernier roman, Ocean Vuong, et auquel il faut répondre par un type d'hamburger ou un numéro de menu. Mais si on l'écoute vraiment, cette phrase, si on se demande vraiment ce qu'on peut faire pour l'autre, alors la voilà qui vibre autrement. « Je suis ton ami », une autre phrase prononcée par une femme lituanienne, en lituanien, femme marquée par l'exil, tout comme l'histoire d'un jeune homme qu'elle a sauvé du suicide au début de ce même roman. Une phrase performative qui scelle leur lien et illumine de bonté ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. À partir de ce jour, grave et gravé, où Hai, votre personnage principal, est empêché de mourir par la main que lui tend Gradina, vous tissez patiemment, exactement comme on attend de voir enfin revenir le printemps, une toile vitale de liens. L'Empereur de la Joie, c'est le titre français de votre roman paru aux éditions Gallimard et traduit par Hélène Cohen. C'est Marguerite Capelle qui interprète vos propos en direct vers le français. Avant qu'on parle des humains, peut-être parlons de la lumière, de la splendeur, de la beauté. À plusieurs moments, je le disais tout à l'heure quand on évoquait votre lecture d'Arthur Rimbaud, il y a comme un scintillement au-dessus des êtres, alors que franchement, ils sont tous cabossés et c'est vraiment pas facile leur vie. Et il y a quelque chose qui scintille exactement comme l'histoire incroyable d'un diamant sous la peau. Est-ce que vous voulez bien essayer de nous décrire la façon dont vous vous débrouillez avec la lumière ? C'est pas la première fois dans votre travail poétique, elle est très présente aussi au Ocean Vuong. Je sais pas, qu'est-ce que vous lui donnez quasiment comme, comme rôle matériel dans votre écriture ?
Un
de mes poèmes préférés de Rimbaud, c'est Le Dormeur du Val, un de ses premiers poèmes, qui décrit un jeune soldat endormi. Et les derniers mots évoquent les deux trous rouges à son flanc, avec un cri de façon passive, sous forme passive, et c'est un poème qui est presque digne d'un tableau. Il révèle toute une histoire de douleur, de mort. Pour moi, la lumière, la beauté, ce n'est pas seulement décoratif, c'est une façon de comprendre la souffrance. Et en particulier pour les femmes qui m'ont élevée, c'était presque une dimension médicinale. Ce qu'elle préférait faire, c'était dresser la liste de ce qu'elle trouvait beau. Et ce n'était pas seulement une approche positiviste de se répéter les choses qui sont belles, la façon dont la lumière illumine quelque chose. Ma mère répétait souvent qu'elle trouvait que la lumière qui se reflétait sur les rails de chemin de fer était quelque chose de magnifique et de très triste. Et je me demandais comment il se faisait que cette femme qui n'avait jamais lu me fasse remarquer ça à moi, son fils. Et je crois qu'en fait, elle m'apprenait à voir la beauté dans les choses ordinaires. Avoir la beauté nulle part. Parce que nous vivons dans une de ces villes où on ne fait que passer, au milieu de nulle part. Et dans ce milieu nulle part, ma mère me faisait voir la beauté. Donc je crois que c'est aussi une façon de s'automédiquer. Ce n'est pas seulement pour s'amuser ou pour décorer. C'est une vraie fonction, la beauté. Elle accompagnait notre vie. Et quand on décrit la beauté, dans cette description qu'elle me faisait de la beauté, il y avait aussi l'histoire de la guerre qu'elle avait connue. Et je crois que c'est pas par hasard qu'il y a autant de beauté dans les poèmes de Rimbaud. Il y en a un autre que j'adore, dans lesquels il est question de chasseuses de poux, de traqueuses de poux, de ces bonnes sœurs qui cherchent les poux sur la tête du petit garçon qu'il est et de ce désir de pleurer que ça lui inspire. Ce qu'il y a dedans, c'est une forme de gratitude envers le soin et la tendresse qu'elle lui montre en épouillant sa tête. Je crois que quand on a connu autant de souffrances, comme ces femmes qui m'ont élevée et les souffrances que moi j'ai vues aussi en grandissant à Hartford, dans le Connecticut, je crois qu'en voyant ça, on se rend compte que la joie, la beauté, ce n'est pas seulement des embellissements, c'est une nécessité. De la même manière que ma mère était capable de rire et de pleurer en même temps, dans le même souffle. J'ai été élevée par des femmes qui n'avaient pas du tout peur de pleurer. Et je ne m'en suis rendu compte que bien plus âgée, que c'était honteux aux États-Unis de pleurer quand les gens pleurent en public, ils s'excusent, j'ai perdu le contrôle moi-même, ou alors on utilise un euphémisme pour dire
oui,
qu'on
a pleuré,
on dit j'ai eu un moment d'émotion.
Il y a un passage dans votre roman où vous vous demandez est-ce que c'est bien possible, est-ce que c'est bien poli de pleurer dans un restaurant. C'est un passage très bref, mais qui pose la question de la possibilité de l'existence de ce genre d'émotion dans l'espace public au Ocean View.
Yes, yeah, and I think because
oui, parce que je crois que les larmes, c'est une manière d'enfreindre la normalité, le contrôle, la maîtrise, c'est une brèche dans la normalité. Mais dans mon expérience, au contraire, quand je grandissais, quand j'étais petit avec ma mère, les larmes étaient quelque chose de très puissant, au contraire de très digne. Quand je la voyais me raconter quelque chose et pleurer, j'avais le sentiment qu'elle était la femme la plus puissante du monde parce qu'elle était pleinement vivante. Et j'admirais sa manière d'exprimer des sentiments sans les censurer. Et j'étais extrêmement fière et reconnaissante qu'elle me transmette cette vulnérabilité. Il ne s'agit même pas de courage, parce que faire du courage, c'est faire quelque chose malgré la peur. Mais elle n'avait pas peur quand elle pleurait. Et quand moi-même, je suis émotionnelle et que je suis au bord des larmes, je n'ai pas peur et pas de regret. Et je crois que c'est grâce à elle et que c'est quelque chose de très beau.
Et finalement, ça me renseigne aussi sur cette omniprésence. J'ai parlé de la lumière, mais il y a aussi une très grande présence aquatique dans votre livre, L'Empereur de la Joie, Ocean View. On va commencer par le tout début, qui est presque une description de la topographie de ce lieu. Terre, verre et eau.
Le plus difficile dans l'existence, c'est de n'avoir qu'une seule vie. Mais c'est si beau ici, même les fantômes vous le diront. Aux premières lueurs du matin, à l'heure où les lieux prennent une teinte flocon d'avoine, ils se lèvent comme à la brume sur l'ivraie le long des chemins, puis remontent lentement vers les flèches noires des pins, cherchant leurs noms éteints depuis longtemps dans la bouche des vivants. Notre ville a poussé sur une bande de terre bordant un fleuve de la Nouvelle-Angleterre. Avec la fonte des glaciers à la préhistoire, la vallée est devenue un lac aussi vaste qu'un monde. Ce lac a laissé dans son sillage un filet d'eau argentin le long du bassin appelé Connecticut, ce qui signifie « longue rivière à marée » en algonquin. Le limon y est riche en particules propices à la vie. Si vous vous approchez, vous serez cerné par les grandes étendues de bourgeons, larges comme le pouce, éclaboussant par éclairs la boue vaseuse d'avril. D'ici quelques mois, ces jeunes plants deviendront des rangs serrés de tabac à feuilles larges et de maïs reine d'argent. Derrière le cimetière et ses pierres tombales aux noms effacés par le temps, un pont couvert enjambe un ruisseau asséché. Sa mémoire de l'eau ne s'est pas conservée jusqu'à ce siècle. Vous nous trouverez de l'autre côté.
Votre roman Ocean View s'ouvre par une adresse aux lectrices et aux lecteurs. Presque, vous disiez tout à l'heure, j'ai grandi dans une ville à travers laquelle on ne fait que passer. Et là, c'est comme si vous la survoliez, cette ville, et puis petit à petit jusqu'aux particules de l'eau qui gardent ou non la mémoire. Pourquoi c'était important pour vous de nous accueillir comme ça, dans ce roman ? Presque faire de la place jusqu'aux cellules, quoi, aux atomes de la terre et de l'eau.
Well, I was a poet first. I was trained
bien,
as a poet.
J'ai commencé comme poète, c'est ma formation.
Description is political.
Et pour moi, la description, c'est un acte politique. Mon premier recueil s'appelle Ciel de nuit blessé par balle, et c'est une façon d'écrire les étoiles. La révélation, c'est qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un de décrire quelque chose d'aussi beau, le lieu des constellations et des mythes, comme un endroit marqué par la violence. Eh bien, c'est quelque chose de très autobiographique, cette description. Quand on choisit de décrire, c'est une décision consciente, un choix qui conduit à décélérer. Et justement, c'était une façon d'écrire contre cette ville de passage et d'y rester. Et j'avais envie de passer des centaines de pages à décrire cette ville. Parce que aux États-Unis, je crois que les angoisses du cinéma dominent la fiction. Les écrivains écrivent des livres presque comme s'ils étaient en train de passer une audition pour obtenir une adaptation cinématographique. C'est presque d'ores et déjà pensé pour le rythme d'un premier épisode de série. On sent que c'est presque fait pour que les producteurs se disent « Ok, ça peut être rentable, on peut produire ce truc. » Et moi, j'avais envie de me demander si je pouvais écrire quelque chose que seul le roman pouvait faire. Quelque chose que seul le roman pouvait se permettre. Et ça, c'est la description et la façon dont la description conduit à l'intériorité. Le roman, c'est une des formes les plus capables, les plus vastes pour accueillir l'intériorité. Et je voulais demander au roman de faire quelque chose que seul ce médium est capable de produire.
On va entendre une question de notre auditrice Vanny, qui s'est précisément laissée toucher par le rythme de votre écriture. Vous dites résister à une forme d'efficacité fictionnelle, Ocean Vuong, et tout dans votre roman, en effet, prend du temps. La manière dont cette femme sauve ce jeune homme, dont ils s'entraident l'un et l'autre, dont une petite communauté, notamment autour d'un petit resto, se forme. Les choses vont vraiment petit à petit, et c'est ce qui a touché Vanny dans sa lecture.
Bonjour le Book Club, bonjour Ocean Vuong. J'ai lu votre livre L'Empereur de la Joie et j'ai énormément aimé autant la plume que l'histoire. Ce que je me demandais, c'est qu'en tant qu'écrivain, comment est-ce qu'on aborde un livre comme celui-ci? Une fois qu'on a choisi la lenteur, qu'on a choisi de s'attarder, est-ce qu'on s'inquiète pour son public? Est-ce qu'on a peur qu'il s'ennuie, qu'il ne s'accroche pas assez à l'histoire? Et comment est-ce qu'on fait pour résister à l'appel de la progression, même juste de rajouter un petit élément de grandiose malgré ses inquiétudes et malgré ce que la société nous apprend à valoriser et à vouloir raconter? Voilà, merci beaucoup pour votre réponse.
Merci à vous, Vanny, pour cette lecture. Le temps, comment est-ce qu'on valorise cette idée de la lenteur une fois qu'on l'a choisie, Ocean Vuong?
Well, in my my undergraduate studies,
bien, quand j'étais à la fac, pendant mes premières années de fac, j'ai étudié la littérature américaine du 19e siècle. La phrase de l'époque victorienne, c'était vraiment un système vraiment fondamentalement ancré dans les formes oratoires. Il y a vraiment la dimension de retardement, c'est-à-dire qu'il fallait maintenir l'attention et il fallait repousser toujours le moment où le fond de la phrase arriverait. C'est comme ça qu'écrivait Melville, par exemple. C'est comme ça qu'écrivaient les auteurs de cette époque. C'était très baroque. Il y avait assez peu de règles, finalement. C'était assez exploratoire comme approche de la langue. Et puis, au tournant du XXe siècle, la phrase anglaise a été tronquée. Elle est devenue beaucoup plus courte à cause de l'avènement du journal, de la presse écrite, qui est arrivée en même temps que le déclin du grand roman américain, du grand roman qui était censé représenter le pays. En 1868, après la guerre de sécession, on a commencé à justement avoir à devenir cette idée du grand roman américain, et en même temps, il y avait cette efficacité dans l'avènement de la presse écrite avec une forme d'utilitarisme, et puis il fallait aussi plus de concision pour faire de la place à la publicité. Et donc l'avènement de ce nouveau style de prose au XXe siècle était vraiment lié à cette dimension marketing de la place qu'il fallait accorder dans les journaux aussi à la publicité et cette forme de la prose journalistique. Et donc très vite, Hemingway, Jack London, Orwell, Stephen Crane, tous ces auteurs de la première moitié du XXe siècle, même Gertrude Stein qui a vécu en France pendant longtemps, tous étaient journalistes. Et Gertrude Stein avait donc commencé par étudier aussi autre chose que l'écriture. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on représente comme une bonne phrase, ce qu'on considère comme une bonne phrase, ça varie énormément en fonction de la période historique. Ce qu'on considère comme une bonne phrase a changé énormément avec le temps. Et donc, ça m'encourage à désobéir à la tendance. Et quand je lis une phrase de Melville, ou de Thoreau, ou de Virginia Woolf,
and think, gosh, there's so much
Je me dis qu'il y a énormément de courage à écrire une phrase qui ne se contente pas de faire du mimétisme et de répliquer la vie. C'est une phrase qui va au-delà de la vie et qui touche un autre inconnu. C'est une phrase qui est presque comme une pioche qui vient creuser justement dans la réalité. Et j'avais envie de ça. J'avais cette foi aveugle, cette idée que mon héros allait creuser et que le lecteur me verrait creuser de la même manière et que le lecteur sentirait justement l'effort qu'en tant qu'écrivain je mettais pour découvrir quelque chose, pour exhumer quelque chose. Et c'est un, voilà, un acte de foi qui m'intéressait.
Absolument, et c'est très émouvant de vous entendre dire ça quand on a dans la tête cette image que vous convoquez d'un cheval enfoui sous les pierres. Et vous dites, on ne sait pas combien c'est grand un cheval avant d'avoir essayé de l'enterrer. De la même manière, puisque vous parlez comme ça de creuser Ocean Vuong et de concevoir une phrase qui est là pour diguer. De la même manière, vous avez cette image incroyable d'un diamant comme ça, un éclat de diamant qui est contenu sous la peau, comme si en effet il fallait, avec la phrase, avec ce temps, piocher pour aller chercher les éclats ou l'élan du... la vitesse du cheval. Il y a cette Grazina au début du roman qui sauve Hai, personnage principal qui était prêt de sauter d'un pont pour se tuer, et se lie peu à peu quelque chose entre eux. À un certain moment du roman, Grazina se risque à lui donner un nom. Vivre et essayer d'être quelqu'un de bien, sans chercher à faire de grandes choses, il n'y a rien de plus difficile. Tu crois qu'être président, c'est difficile ? Ah ! Tu ne comprends pas que chaque président devient millionnaire après avoir quitté ses fonctions ? Si tu arrives à être personne et à tenir sur tes deux jambes aussi longtemps que moi, c'est déjà beaucoup. Prends ma fille, tout ce talent et pourquoi au final ? Se noyer dans la bière ? De l'eau gouttait de son nez. Les gens ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont là-bas. C'est tout le problème. Ils croient qu'ils souffrent, alors qu'en réalité, ils s'ennuient. Ils ne mangent pas assez de carottes. Là-bas, j'ai peur de mourir. Si Dieu veut, j'aimerais vivre un peu plus longtemps, juste quelques années de plus. Je sais que le repos est doux quand on s'en va, mais le goût du thé fraîchement infusé avec un peu de crème, j'en ai encore envie. Surtout quand il fait froid dehors. Il ignorait qui, de la jeune fille ou de la vieille femme, s'était exprimé, et il était trop fatigué pour démêler les fils. Qu'est-ce que ça changeait de toute façon ? C'était toujours le même squelette. « Ce doit être Noël maintenant », murmura-t-il, les yeux fixés vers le ciel. « Il reste le plat que tu as préparé pour Kuchios. Ça te dit ?» Elle parcourut du regard la toute petite pièce, mais il n'y avait pas d'horloge. « Oui, allons manger. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougèrent. Elle écarta sa frange. « Tu es imano draugas. » « C'est une prière de Noël ?» Elle secoua la tête. « Qu'est-ce que tu as dit alors ?» Elle regarda l'eau et dit, tout doucement, « Tu es mon ami. » Tout à l'heure, vous avez évoqué Ocean Vuong, la manière dont Arthur Rimbaud est bouleversé en pensant aux femmes qui épouillent la tête d'un enfant pendant la guerre, parce que c'est un profond geste de tendresse. Et cette scène-là, qui est un extrait de votre livre « L'Empereur de la joie », est un moment de très grande tendresse entre les deux, d'une très pudique tendresse, où cette vieille dame qui est en train de perdre la tête, qui a été marquée par la guerre et par l'exil, dit en lituanien d'abord « tuer mon ami à ce jeune homme. » Je dis qu'elle se risque à le nommer parce que on ne sait pas trop ce que c'est finalement, la qualité exacte de ce lien. À ce moment-là, c'est de l'amitié, mais un peu plus tard, ça pourrait être presque une filiation. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans l'idée qu'il y a comme une palette de liens dans votre roman ?
I guess I was raised by my grandmother.
Bien, j'ai été élevée par ma grand-mère.
I think
Et en Amérique, on a ce fantasme, cette idée en s'illusionnant, en pensant que les personnes âgées ne peuvent plus fonctionner et devraient être mises au vert, en quelque sorte, c'est-à-dire envoyées dans des maisons de retraite, mais en utilisant une métaphore destinée au bétail. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté dans toutes les fibres de mon être, et j'avais envie de raconter une histoire d'amitié intergénérationnelle. Mais cette scène, pour moi, c'est vraiment le fragment central, en fait, du roman. C'est ce qui est venu en premier. J'ai construit le roman autour de cette scène. Je ne sais pas si la métaphore de l'architecture, de la construction, de la maison convient pour décrire un livre. Pour moi, je crois que c'est plus comme une forme de moisissure. Et la première spore qui donne naissance, ce qui fait développer le livre, c'est cette image. Cette image de deux personnages qui ont 60 ans d'écart, qui viennent de deux continents différents, de deux guerres différentes, de deux races différentes, qui ont deux langues différentes, et qui sont côte à côte, et qui sont complètement à nu, et réalisent qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Et c'était ça, et en même temps c'était sacrément ambitieux à l'époque. Je me suis demandé comment j'allais faire pour y arriver, mais c'était vraiment ça l'étoile qui a guidé le livre, qui était vraiment au cœur du projet. Comment rendre ça crédible, et comment est-ce que ça sonne comme une expérience humaine authentique. C'était une image qui ne me quittait pas, et j'avais envie de construire toute l'œuvre autour de cette image.
Il y a une autre image très forte qui est celle d'une sorte d'abattoir de cochons. Tout à l'heure, j'ai commencé par parler de la lumière et de la beauté. Et vous avez bien pris soin, Ocean Vuong, de dire que ce n'était pas que quelque chose de superficiel ou de juste décoratif, mais que de toute façon, souvent, derrière la lumière et la beauté, il y avait la conscience de la très grande violence, de la finitude, de la mort et éventuellement du massacre. Et c'est probablement le rôle que jouent au loin ces cochons qu'on assassine dans votre roman, et qui d'ailleurs ne s'en vont jamais complètement, leur cri, leur hurlement au moment d'être tué. C'est comme si c'était un bruit de fond. La guerre aussi est un bruit de fond dans votre roman, où toutes les choses douces se tissent entre ces êtres qui s'entraident. Et puis il y a l'Amérique. Je disais qu'à un moment donné, vous avez cette formule incroyable qui est l'Amérique, c'est cette porte qui, quand on a réussi à la franchir, demande à ce que tout le monde paye pour rester. Est-ce qu'il y avait l'ambition dans L'Empereur de la Joie de dire quelque chose de la longue histoire américaine?
Oui, absolument. J'ai envie de citer l'ontologie selon Derrida. Cette idée que l'histoire est quelque chose qui vous hante et qu'on ne peut pas envisager l'Amérique sans considérer le sang sur lequel elle a été bâtie. On ne peut pas contourner ce fait. Je crois que c'est pour ça qu'il y a tant d'angoisse dans ce rêve américain, parce que c'est une nation dont la mythologie est hallucinatoire. Et pour se réveiller de ce rêve, de ce fantasme, c'est quelque chose qui coûte. Il y a un prix à payer très élevé, parce qu'on se rend compte qu'on vivait dans un cauchemar, dans lequel et pour lequel tant d'entre nous ont été massacrés et conduits à l'abattoir. J'ai grandi pendant l'époque de l'épidémie d'opioïdes, qui est un massacre commis par l'industrie pharmaceutique et très similaire au massacre commis pendant la guerre du Vietnam. Monsanto a fait partie des plus principaux bénéficiaires de la guerre en créant l'agent Orange. La Sackler Family aussi, pendant l'épidémie d'opioïdes, c'était aussi une famille qui venait du Connecticut, de là où j'ai grandi d'ailleurs, et qui s'est enrichie aussi par l'industrie pharmaceutique. Donc je crois qu'être américain, c'est être pris au piège dans un pays libre. On est coincé. Tous les quatre ans, on a deux choix, dont aucun ne correspond à ce que nous voulons. On nous dit que nous sommes le plus grand pays du monde, mais notre population souffre énormément. Nous n'avons pas accès aux soins de santé, nous n'avons pas accès à un toit. nos impôts servent à payer des bombes et nous restons spectateurs. Donc je crois que toute cette liberté, elle contraste avec cette réalité qui est que nous faisons partie d'un système de massacre figuratif et métaphorique, mais aussi réel. Et les Américains adorent les histoires qui leur permettent justement de s'évader. Je crois qu'il y a plus d'Américains qui ont été sauvés, qui ont réussi à s'échapper, à se sauver dans un film, dans un roman, à s'échapper de la cage qu'il n'y a d'Américains dans le pays aujourd'hui. Alors si nous sommes ces cochons enfermés, justement, si nous sommes enfermés dans l'abattoir, si nous sommes dans la cage, comment faire pour que la vie que nous vivions derrière les barreaux vaille la peine ? Est-ce qu'il est possible encore de rire ? C'est un projet qui peut paraître sombre, mais je crois qu'il n'est pas tant question d'ombre et de lumière, mais de la nécessité. Et c'est ça le défi qui m'intéresse en tant que qu'écrivain et en tant qu'Américain involontaire, je crois.
Ça aussi, c'est un des thèmes très forts, la puissance à la fois dévastatrice et en même temps salvatrice de la fiction. C'est en lui racontant une petite histoire que Gratzina va réussir à sauver Hay de son projet de suicide. Et c'est en la rejoignant sur un terrain où elle délire, où elle fait fiction du réel, que Hay va aider Gratzina à échapper à la déliquescence de son esprit. À la fois, vous dites, il est super coûteux de se réveiller de la fiction du rêve américain et en même temps vous montrer l'ambivalence qui est que parfois c'est la fiction qui nous sauve. On va écouter une archive d'Umberto Eco en 1996 dire combien nous sommes une espèce qui a besoin d'affabuler et de se raconter des histoires, et juste après un extrait de votre roman, Ocean View.
Nous sommes des êtres fabulateurs, on raconte des histoires, on entend des histoires, c'est un des besoins. Mais il y a une différence entre l'attitude normale, humaine, à entendre des histoires, qui est commune à toute l'humanité. Le fait de raconter des histoires, tout le monde raconte des histoires. On ne s'en aperçoit pas, mais de, ah, comment ça va ? Ah, si tu savais ce qui s'est passé ce matin, je suis sorti et tout à coup, on raconte une histoire. On ne s'en aperçoit pas, mais si tout à coup, il y avait une loi qui nous interdisait de raconter des histoires, notre vie deviendrait quelque chose d'invivable, de terrible.
Tout à coup, une idée folle lui vint. Si Gratzina était prise dans les replis du passé, il pouvait tenter de rétablir le contact en s'y enfonçant à sa suite, comme il l'avait fait une fois ou deux avec sa grand-mère au cours de ses crises psychotiques. Repensant aux scènes d'Abattoir 5, encore fraîches dans son esprit, les soldats, les paysages allemands dévastés, il inspira profondément et prit une voix grave, une voix mâle, qu'il ancra solidement en lui. « Madame, » dit-il, marquant une pause pour juger de l'effet. « Madame, ne vous en faites pas, nous allons aider votre frère. » Il pointa l'index vers sa poitrine. « Mais vous devez m'écouter, d'accord ?» Il fouilla son esprit encore embrumé, chercha un nom de soldat et lâcha le premier qui lui vint. « Je suis le sergent Pepper de l'armée des États-Unis, 2e division. » Il apprendrait plus tard que la nouvelle pizzeria en ville portait le nom d'un album des Beatles, dont il ne connaissait que quelques chansons entendues à la radio au fil des ans. Hay s'était imaginé que sergent Pepper était le diminutif de sergent Pepperoni. Gratzina sembla dresser l'oreille, et sur le qui-vive, se tourna vers cette voix inconnue, nouvelle et plus mûre. « Madame, l'ennemi qui nous bombarde, nous devons évacuer... L'ennemi nous bombarde, nous devons évacuer le village. » Son élocution était rapide, son ton résolu et âpre à la Bruce Willis. Elle hocha la tête. Elle avait le regard clair à présent. « Oui, sergent, bien sûr. »
C'est la première fois que, comme dit votre roman Ocean View, Hay a une idée de génie d'un seul coup, et pour rejoindre Gratzina qui perd la tête, il va la rejoindre dans sa fiction, il va la rejoindre dans son délire, et ça va être sa manière à son tour de lui tendre la main et de faire un pas vers elle. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter avec cette façon de rejoindre l'autre, y compris à l'endroit où il capote, quoi ?
Bien, pour avoir soigné et pris soin de quelqu'un qui était atteint de ce type de démence sénile, on parle souvent de la perte de mémoire. C'est comme ça souvent qu'on le décrit. Mais pour moi, ce n'était pas ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à la fin, la dernière étape. En fait, c'est plutôt, la plupart du temps, dans cette maladie, des souvenirs qu'on ne peut plus trier, choisir. Ce sont des souvenirs qui ne sont, sur lesquels on ne peut plus agir, qu'on ne peut plus mobiliser comme on le souhaite. Et donc, je crois que ce qu'on peut faire de mieux pour une personne qui subit ça, c'est de les suivre, parce qu'on peut encore choisir de vivre dans un monde fantasmé, alors que la personne, justement, qui est malade, ne le peut plus. Et ça devient une question de pouvoir, une question éthique, et c'est aussi une forme de méditation par rapport à ce que disait justement le professeur Umberto Eco, cette idée de la mythologie, du récit que l'on se fait. Je suis d'accord, nous sommes une espèce qui racontera toujours des histoires. Mais la différence, c'est qu'il y a des histoires destinées à des communautés, à des familles, et puis il y a les histoires plus troublantes, plus problématiques des nations. Et celles, plus précisément, que les nations se racontent sur elles-mêmes, que les pays se racontent sur eux-mêmes. Et là, je parlerai de la mythologie selon Roland Barthes. En Amérique, par exemple, nous n'avons pas d'agiographie, nous n'avons pas de cette histoire des saints, des pères fondateurs. Ce sont justement les pères fondateurs de l'Amérique qui sont nos saints, nos personnages sacrés, ceux qui ont fondé sur cette terre, sur le génocide et le massacre des peuples autochtones américains. Donc il y a quelque chose finalement de très représentatif de cette idée de la mythologie dans le Mont Rushmore. Et le Mont Rushmore, pour moi, c'est vraiment renvoie tout à fait une énergie qu'on appellerait une énergie de petite bite. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de défigurer la nature, ce monolithe magnifique, comme un aveu, un besoin de réquisitionner quelque chose d'aussi vaste pour dire quelque chose d'aussi faux et d'aussi vide. Et donc, si on fait ça, c'est qu'on sait à quel point le projet est d'ores et déjà fondé sur une trahison profonde de toute valeur morale. Et donc, on est en permanence confronté à cette question de la fabulation, de la mythologie. Le problème, c'est que la mythologie nationale, elle vient avec un système juridique et une puissance militaire, une marine, une armée.
Le boucle à pontine. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on tient un agenda. On voulait parler de la 28e édition du Printemps des Poètes qui vient juste de commencer. Ça s'est ouvert le 9 mars et ça se tiendra jusqu'au 31 mars prochain. Plusieurs émissions de notre antenne France Culture s'en font l'écho. On aura ici même l'occasion de mettre la poésie à l'honneur la semaine prochaine. Comme chaque année, tous les territoires dans plus de 50 pays et dans plus de 50 pays à travers le monde soutient cette manifestation autour de la poésie avec aujourd'hui pour thème de cette 28e édition Liberté, force vive déployée. Et une citation d'Arthur Rimbaud en exergue que vous citiez tout à l'heure. Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Citation extraite de sa fameuse lettre à Georges Isambard du 2 novembre 1870. Quelques temps forts à vous signaler. Foncker, ça a lieu à La Réunion le 16 mars aujourd'hui, donc à 18h30 à Saint-Pierre. C'est une scène ouverte, électrique, autour des poètes Bilal Moulan et Kenny Lefebvre, dans une atmosphère des plus festives, on nous dit. J'espère qu'on aura de quoi nous raconter ça. Ensuite, il y a une manifestation qui est consacrée à la littérature roumaine. Ça, c'est à Clermont-Ferrand, Chambéry et Lyon, plutôt autour du 18 et du 20 mars. Et puis, directement en lien avec notre sujet et notre invité du jour, paraît en parallèle de votre roman Ocean Vuong, vos deux recueils de poésie, je le disais tout à l'heure, chez Gallimard, un traduit par Marguerite Capel, l'autre traduit par Marc Charon. Et vous serez Marguerite Capel le 21 mars prochain, de 17h à 18h, à la Maison des Canaux, Paris 19e. Ce sera une rencontre autour de toute l'œuvre d'Ocean Vuong dans le cadre du festival Les Intempestifs. C'est un festival qui est dédié à la poésie contemporaine, qui est organisé dans différents lieux du 19e, du 20 au 20 mars. Laquelle manifestation est soutenue par le Printemps des Poètes. Chut, la boucle est bouclée. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Marguerite, de cette rencontre? Ce sera autour de l'œuvre d'Ocean Vuong.
Oui, autour d'une partie forcément de l'œuvre d'Ocean Vuong, puisque j'ai traduit deux textes d'Ocean. Et voilà, j'ai
eu. Mais vous y discuterez spécifiquement de la traduction.
Oui, tout à fait, sur la dimension traductive, ouais, tout à fait.
Super de vous entendre parler de votre travail un petit peu. Voilà pour l'agenda. Si vous voulez nous envoyer des liens, de moments autour de la lecture et du livre, lebookclub@radiofrance.com.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À la fin du Book Club, ici, au Ocean Vuong, nous jouons à un jeu qu'on appelle le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditeurs et auditrices de chercher la musique dans tous les livres qu'ils sont en train de lire. Et on le fait, évidemment, nous aussi, avec les livres de nos invités. On cherche la musique où elle se trouve. Alors, pour nos auditeurs, si vous voulez jouer avec nous, vous faites une photo de la page où surgit la musique. Vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse que je viens de citer, ou alors via le compte Instagram du Book Club de France Culture. On a trouvé de la musique, pas mal, dans votre livre, Ocean Vuong. On se quitte donc avec un extrait de L'Empereur de la Joie. Hai enfouit son visage dans ses mains et eut subitement envie de crier un grand coup. À la place, il sortit son téléphone. Tu as appelé qui à cette heure ? Attends deux secondes. Tiens, écoute. Hai lança le MP3 de la chanson qu'il utilisait comme sonnerie, la seule qu'il ait téléchargée sur son Nokia. « C'est quoi ?»« American Football ?» Sony le regarda bizarrement. « C'est un groupe. La chanson s'appelle The Summer Hands. Je mets ça quand je vais pas bien. » Tête baissée, Sony écoutait la mélodie métallique sans bouger. « C'est triste ? Pourquoi t'écoutes des trucs tristes quand t'es déjà triste ?»« J'en sais rien. » Hai dessina des cercles sur le trottoir. Ça donne l'impression d'avoir un endroit où aller, comme un petit arrêt de bus. L'enseigne du Subway s'éteignit et dans l'obscurité soudaine, au-dessus du centre commercial, il vit le ciel serti d'étoiles d'hiver, plus clair qu'elle ne le serait jamais en été. Sony tira sur sa manche. « Regarde », dit-il pendant que la chanson continuait. Il lui tendait une photo. Hai la prit et vit son visage, puis ceux de sa mère, de tante Kim, de Ban Goai, de tout le monde. Il posait sur le tarmac de l'aéroport de Tan Son Nhat, juste avant d'embarquer pour l'Amérique. Beaucoup Ocean Vuong d'avoir nous avoir fait l'amitié de venir autour de la table du Book Club de France Culture pour évoquer L'Empereur de la Joie. C'est le titre français de votre livre paru aux éditions Gallimard et traduit de l'anglais par Hélène Cohen. Merci Marguerite Capel d'avoir assuré l'interprétariat. Au son, c'était Élise Leu, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Julie Gastal, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Cyril Marchand et Alexandra Laïbegovitch qui animent le compte Instagram du Book Club où se poursuit la conversation.